Il était sur son char.
Amateur, propagande.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, snobles.
Journal vivant, revue politique.
Construction,
obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imitait son silence.
Le théâtre persistant, c'est une autre façon de faire du théâtre. Une approche locale, démocratique, basée sur l'échange, le don et les réseaux. Notre idée est simple. On part de vous, de ce que vous voulez dire et de là où vous habitez. À partir de votre idée, on imagine ensemble ce que sera le spectacle. La production et le financement, on le fait avec tous ceux que votre projet intéresse, de façon participative. Les pouvoirs publics, les entreprises locales, mais aussi tous vos amis, vos voisins, votre famille. Une fois le budget atteint, on vient dans votre ville, on organise des ateliers, des spectacles et des animations. Le tout gratuit et ouvert à tous. Pour résumer, vous plantez une graine, on amasse le terreau, on arrose tous ensemble, et là, tous.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, vous écoutez le Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique en direct de Radio Canu tous les vendredis de 13h à 14h. Aujourd'hui, nous allons passer une heure en compagnie d'Hervé Charton, qui est comédien, metteur en scène, docteur en improvisation et qui a fondé le Théâtre Persistant. Bonjour Hervé.
Bonjour Amandine.
Et il est accompagné de Julie, alors je vais pas écorcher son nom, Felgerol,
c'est ça,
qui est comédienne.
Oui. Et intervenante.
Et intervenante, voilà. Voilà. Vous êtes venus tous les deux donc nous parler du Théâtre Persistant.
Oui, exactement.
Et donc forcément, la première question que j'ai envie de poser, le Théâtre Persistant, c'est quoi ?
Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une compagnie de théâtre donc, que j'ai imaginée, que j'ai fondée, et dont le principe est un peu particulier par rapport à la manière dont on fait du théâtre habituellement, qui est, d'habitude, ce qu'on fait, c'est, nous, artistes, on se dit, tiens, j'ai envie de monter tel texte, ou j'ai envie de parler de telle ou telle chose, et donc on crée un spectacle, et après on essaye de le vendre. Mm-hmm. Nous, on fait une démarche inverse, on part de la demande des gens. C'est-à-dire que l'idée, c'est que n'importe qui peut nous contacter pour nous dire « j'aimerais bien qu'il y ait un spectacle qui parle de telle thématique » ou alors qui se passe dans le cadre de tel événement ou alors qui se passe dans tel lieu, par exemple une gare abandonnée ou une ancienne usine ou une chose comme ça. Voilà, en fait, n'importe qui peut nous appeler pour nous proposer d'intervenir artistiquement, spectaculairement, sur quelque part, sur quelque chose qui lui tient à cœur. Voilà, et c'est ça le principe fondamental de la compagnie.
Donc quand tu dis n'importe qui, par exemple, un des auditeurs, là, aujourd'hui,
voilà,
s'il est intéressé par le principe, peut contacter le Théâtre Persistant et dire, moi j'aimerais qu'il y ait un spectacle qui se passe dans un camping.
Exactement, bah, par exemple, voilà.
Pourquoi pas ?
C'est-à-dire que s'il a un camping à sa disposition et puis qu'il a envie qu'on fasse un spectacle là-bas, ben voilà, on peut y réfléchir et voilà. L'idée, c'est que ça part de ça, de la volonté de quelqu'un. Pourquoi ? Peut-être un peu.
Ouais, voilà, ce que j'ai demandé.
Ouais.
Je te laisse enchaîner.
Alors, en gros, pourquoi ? Parce que comment dire ? Plusieurs choses, c'est-à-dire que je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, c'est-à-dire que ça fait des années que je suis dans le théâtre, que je suis comédien, que je suis metteur en scène, que j'ai dirigé une troupe aussi à Paris, voilà, et où on est toujours face à la même problématique quand on crée quelque chose. Déjà, on le crée de façon souvent bénévole.
Oui.
Voilà, on travaille énormément, gagnant très peu d'argent. Et ensuite, on a un problème fondamental qui est, on ne sait pas comment. Il y a des intermédiaires en fait pour accéder au public. Il faut passer par des soit les pouvoirs publics, enfin c'est-à-dire les collectivités locales, les théâtres, les choses comme ça. Enfin, en tout cas, il faut toujours essayer de convaincre, passer du temps et de l'énergie à convaincre des gens qui sont des intermédiaires avant de pouvoir toucher un public. Donc voilà l'idée. Et puis après, l'autre chose, c'est que ce système-là, du coup, finit par nous faire travailler un peu en vase clos. C'est-à-dire que du coup, pour qui est-ce qu'on fait les théâtres, les spectacles, pour qui est-ce qu'on on définit nos projets, eh ben ça va être pour les décideurs publics, pour les politiques, pour les directeurs de théâtre, et finalement pas pour le public à qui on va s'adresser dernièrement. Enfin, c'est-à-dire que du coup, on s'adresse à un public abstrait, un peu généraliste comme ça, et qui se résume, enfin si je grossis le trait, hein, voilà, mais qui se résume aux professionnels du spectacle, aux professeurs, enfin aux enseignants, aux
personnes déjà averties en fait,
voilà,
qui ont l'habitude de se rendre et d'avoir la démarche d'aller au théâtre.
Voilà. Et donc là, l'idée, c'est plutôt de passer, prendre, au lieu d'user de l'énergie pour dire pour essayer de convaincre que son projet, convaincre ces gens-là qui sont déjà des gens avertis, autorisés, etc., que son projet est intéressant, et ben là c'est de passer de l'énergie pour convaincre n'importe qui que le projet de n'importe qui peut être intéressant et que on peut ensuite nous en faire une forme artistique pour ces gens-là, pour les amis, pour les voisins, etc. Enfin voilà, donc plus s'adresser directement au public et écouter ce public-là, écouter ce qu'il a envie de dire et d'entendre aussi. Voilà, parce qu'il peut avoir l'impression que ce qui se passe au théâtre ne s'adresse pas à lui. Et puis faire du théâtre à partir de ça.
Et du coup, comment ça fonctionne, ça se joue donc vraiment n'importe où?
Alors, oui.
Et ça touche donc directement, si je comprends bien, les personnes par exemple d'un quartier. Ça
oui.
peut être un spectacle sur un quartier qui raconte l'histoire du quartier.
Oui, par exemple. Ouais. Ça peut être plein de choses en fait. Hein,
ça pour le produire, le financer, comment ça fonctionne au niveau du financement de ces projets-là?
Ouais, alors. Pour continuer un peu, je voulais dire un truc sur le principe. Qu'est-ce que je voulais dire exactement? Je ne sais plus. Non, mais si, c'est-à-dire qu'en gros, je voulais situer un peu cette idée dans d'autres choses qui existent déjà. Il y a notamment la Fondation de France, qui est donc une fondation de France, non je sais pas, enfin bon, qui est un truc qui finance des choses à objectif citoyen, etc., qui depuis 1992 dans le domaine de l'art contemporain finance quelque chose qui s'appelle les nouveaux commanditaires, et qui est exactement le même principe pour l'art contemporain, c'est-à-dire qu'en gros c'est des, alors c'est pas forcément des individus, mais ça va être des associations, des groupes de gens qui vont contacter la Fondation de France pour passer commande d'une œuvre d'art, parce que ils ont un besoin d'une œuvre d'art. Je sais pas, j'avais vu il y a un bouquin énorme qui raconte tout ce qui a été fait depuis 20 ans. Où notamment il y avait par exemple une association de riverains d'une place à Tours, je crois, ou je sais plus où, qui avait commandé une sculpture à quelqu'un pour remplacer, enfin pour reconfigurer la place en question, quoi, au milieu de la ville. Et la démarche était, ils se décident, l'idée c'est que la culture n'est pas une possession, enfin quelque chose que une certaine classe possède et puis diffuse aux autres, mais qu'elle se construit en commun, que c'est une ressource commune en fait, et puis qu'elle existe au niveau local, et que il faut la mettre en relation. Nous, notre rôle du coup à l'intérieur de ça, c'est de la mettre en relation avec la culture que nous on porte en tant que spécialistes de la culture, c'est-à-dire la culture des livres, la culture des la culture peut-être un peu plus officielle, quoi, un peu plus élitiste en fait. On fait un pont entre la culture locale et la culture nationale ou universelle, on va dire. Voilà. Enfin, je voulais préciser un peu ça.
Oui.
Et aussi dire que cette idée de passer son énergie à convaincre les gens plutôt que de convaincre les pouvoirs publics et les décideurs, ça, je m'en suis rappelé. Enfin, c'est-à-dire que il y a une lecture qui était très importante pour ça, c'est celle de la lettre au directeur du théâtre de Denis Guénoun. Voilà, Denis Guénoun, qui est un auteur, metteur en scène, universitaire, philosophe, et qui va venir bientôt au TNP faire un spectacle qui s'appelle Au corps prochain. Enfin bon.
Et cette lettre, on peut la trouver ?
Ouais, elle est éditée où, je ne sais plus. Mais enfin bon, oui, elle est
sur internet, par exemple, on peut y avoir accès. Ou...
Alors, on peut pas avoir accès au texte sur internet. Par contre, on peut avoir le bouquin.
Oui. Trouver les références.
C'est sûr. La lettre au directeur du théâtre, qui est un texte très intéressant où un ami de Denis Guénoun lui avait demandé un texte de théâtre. Qui serait un peu les leçons du théâtre, leçons de théâtre par Denis Guénoun, qu'il aurait pu monter ensuite et montrer un peu à ses abonnés. Et puis, en fait, Denis là-dedans dit, non, je peux pas faire un texte pareil parce que je ne saurais pas à qui je m'adresse. Et puis, ça n'a aucun sens, en fait, pour moi, de faire venir des gens en théâtre et de faire des leçons de théâtre, comme s'il y avait, voilà. Et donc, il pose vraiment la question de l'adresse, à qui s'adresse. Le théâtre, ça c'est hyper important.
Et du coup, l'énergie qu'on ne passe pas à convaincre les décideurs, on la passe à aller à la rencontre des gens, à partager avec eux, à imaginer les choses à faire ensemble.
Ouais. En fait. Bah oui, là on a fait un. Tu demandais un peu où ça peut se passer, à qui, voilà, à quartier et tout ça. Là, par exemple, on a un projet avec à la base c'est la MJC Lanec Mermoz qui nous a demandé.
Ouais.
Donc Julie y participe. Mm-hmm. Et sur un événement qu'ils organisent fin mai et voilà, et nous avec Julie on est allé plusieurs fois rencontrer les gens, on y a passé pas mal de temps déjà, on a discuté, partagé des repas et tout ça juste pour faire connaissance et imaginer un peu ce qu'on pourrait leur proposer, quoi.
Savoir de quoi ils veulent parler par rapport à ce projet-là et s'il y a des choses en particulier dont qu'ils ont envie d'entendre et qu'on mette en théâtre, enfin qu'on mette en jeu.
Donc du coup, je reviendrai plus tard sur la question précédente. Je vais avancer. Du coup, ça, parce que moi, ça m'emmène cette question-là. Du coup, concrètement, comment ça se passe donc vous rencontrez ces personnes, mmh. Et après c'est eux qui jouent ou ce sont des comédiens professionnels?
Ce sont des comédiens qui jouent, en fait. C'est par rapport à leurs paroles, de quoi ils veulent parler, nous on s'en empare et on imagine une forme.
C'est ça.
Voilà. Et oui.
Vas-y. Oui, alors après, donc nous, en fait, l'équipe, elle est le nous, un peu pour rendre un peu plus concret qui est ce nous, c'est moi qui dirige la compagnie. Et après, j'ai réuni un groupe assez conséquent de personnes, qui là, il y a à peu près 60.
Oui, quand même.
Donc il y a entre Lyon et Paris, parce que moi je venais de Paris avant, donc voilà, j'ai encore des connaissances là-bas qui sont intéressées par le projet et qui participent. Mais voilà, et dedans, il y a des comédiens, il y a des danseurs, il y a des musiciens, il y a des scénographes, costumiers, éclairagistes, accessoiristes, voilà, il y a des auteurs aussi, oui. Des musiciens, ouais. Des auteurs aussi, parce que il n'est pas exclu que, on reviendra là-dessus un peu sur quand on parlera un peu du mode de financement, mais pas exclu qu'on écrive des choses, en fait. Et en fait, quand on a une demande de la part de quelqu'un, moi je la mets un peu en forme, enfin je vois un peu quelles sont les thématiques, tout ça, et puis je dispatche comme ça à tout le monde, avec la date, avec les contraintes qui s'imposent,
oui.
sur le temps de création et tout ça. Et de là, les artistes, de manière générale, me font des propositions. Ce que ça leur inspire, etc. Ça se trouve, ça leur inspire rien. Ça se trouve, ça leur inspire beaucoup de choses. Et à partir de ça, en fait, on commence à amasser un peu de la matière. Et nous, on fait une proposition après à la personne qui nous a contacté au début. C'est-à-dire que, à partir de tout ça, on imagine ce que ça pourrait être. Tiens, tel personnage, leur rencontre, comment ça pourrait se passer. Tiens, on aimerait bien voir de la musique à ce moment-là, à cet endroit-là, tel instrument. de la danse, telle ou telle chose. Enfin voilà, on imagine un peu comment ça peut se passer. Tu me parlais du camping tout à l'heure. Ben on imagine aussi une. Tu vois, on peut imaginer une comment ça va se passer dans l'espace du camping. Tu vois, un truc vraiment très spécifique par rapport à tel ou tel arbre ou tel tel ou tel hein, la piscine. Ouais, dans la piscine, faire un truc un truc flottant. Voilà. Non, mais on imagine des choses qui nous font triper nous et puis qui sont en relation avec ce qui a été proposé. Enfin, l'idée c'est que c'est vraiment une rencontre. Une rencontre des deux côtés, quoi. Voilà. Et après, à partir de ça, si la proposition que nous on fait plaît à la personne qui nous a demandé, eh ben, on lance la question du financement.
Alors, du coup, comme on est dans les étapes, on va parler de cette étape du financement. Comment ça fonctionne? Voilà. Où est-ce que vous allez trouver de l'argent pour monter ces projets et payer toutes ces personnes qui œuvrent?
Comme je disais au début, en fait, une des raisons pour laquelle j'ai imaginé ce système, c'est parce que j'en avais marre de faire des projets sur lesquels tout le monde travaille bénévolement. Et puis voilà, en tant que metteur en scène, c'est toujours compliqué de proposer des trucs où on fait travailler les gens beaucoup pour pas les rémunérer beaucoup. Donc voilà, ça j'en avais un peu marre. Et donc là, un des principes, c'est qu'on travaille hors temps de rencontre pour le moment, mais bon, on verra. Tout le temps qu'on travaille sur les spectacles, ensemble, est rémunéré. Voilà. Ça, c'est un principe de base.
Et comment ?
Alors, et comment ?
Merci.
Et c'est-à-dire que donc le budget, à partir du moment où on a fait la proposition au commanditaire, nous on appelle ça une graine, mais je reviendrai peut-être un peu dessus.
Mais une fois qu'il y a eu cette graine, il faut qu'elle germe.
Voilà, ben c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, là, pour le moment, on appelle ça une graine. Pourquoi ? Parce que nous, on apporte le terreau, on apporte la terre, les minéraux et les choses comme ça, et après, il faut l'arroser, quoi. Faut l'arroser, et donc ça c'est le financement, l'arroser. Et qui l'arrose ? A priori, n'importe qui, encore une fois. C'est-à-dire que nous, de notre côté, on va contacter les pouvoirs publics dont dépend le territoire sur lequel ça se passe. On va contacter les associations qui sont déjà là, éventuellement des mécènes, des entreprises qui pourraient être intéressées par le projet, etc. Nous, on va faire cette démarche-là. Mais de l'autre côté, la personne qui a notre graine, elle va aussi solliciter finalement son voisinage. Son voisinage à tous les sens, sa famille, les voisins,
son immédiat. Réseau, quoi.
Ouais, c'est ça. Solliciter son réseau, etc. Et l'idée, c'est qu'on va fonctionner sur une économie du don. C'est-à-dire que on fait pas un objet qu'on va vendre derrière, mais si le projet plaît aux gens, eh bien, ils peuvent donner de l'argent pour que le projet puisse avoir lieu. S'il leur plaît pas, ils donnent rien.
Chacun y investit ce qu'il veut. Il n'y a pas de billetterie. Et au final, la forme présentée est gratuite pour tout le monde. Et ceux qui ont investi l'ont fait en amont, en fait.
C'est ça. Ouais. Et puis, l'avantage du don, c'est que, en fait, encore une fois, toujours dans cette optique de pas passer du temps à essayer de convaincre absolument les pouvoirs publics que c'est un bon truc, etc., pour avoir de l'argent de leur part. C'est-à-dire qu'un don, c'est une réduction d'impôts derrière.
D'accord.
Pour les gens qui sont imposables. Bon. Voilà, c'est une réduction d'impôts de 66%, je crois. C'est-à-dire que sur 100 euros, on en paye vraiment que 33. Derrière, on récupère 66% de réduction d'impôts. Et ça, en fait, c'est de la subvention détournée, en fait.
Ouais,
C'était l'État qui subventionnait du coup l'activité, sauf que c'est pas lui qui décide.
Le citoyen.
C'est le citoyen, ouais. C'est les citoyens, c'est collectivement, démocratiquement que ça se passe, que on décide que va y avoir une subvention accordée à ce projet.
Et ben on va rester avec cette petite graine, on va faire une petite pause musicale avec Trio, et c'est l'hymne de nos campagnes.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux termes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite,
faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas, ici tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout,
et
il y a la mer,
et que ça, ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots, servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort,
vous êtes toujours sur le théâtre de la Gamelle et nous sommes toujours en compagnie de Hervé Charton et Julie Felgerol et donc qui nous parle du théâtre persistant. Donc Hervé était en train de nous parler des différentes étapes. Donc on venait de s'arrêter sur l'étape du financement, du moyen de production, et donc forcément après la production, l'étape suivante, j'imagine que c'est la mise en application, en œuvre, la création du spectacle.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça fonctionne exactement?
Alors, comment ça fonctionne? Alors, déjà, ça dépend de beaucoup de choses, parce que ça dépend forcément du projet, de où ça va se passer, etc., de quels sont les... Alors... le... Ouais.
Peut-être en fait, des exemples concrets.
Où est-ce qu'il a déjà eu lieu ou qui va y
partir d'exemples concrets, mais déjà ce que j'aimerais préciser, c'est que on fait pas seulement un spectacle. Déjà ça j'ai oublié de le dire, c'est-à-dire qu'en gros le principe c'est que à chaque fois qu'on va quelque part, on va faire des ateliers, spectacles et débats. Et voilà, ce qui est quand même important. Et l'autre chose, c'est que la campagne de financement de participative, etc. Enfin, le financement, on va pas le faire comme ça dans le flou. C'est pas genre vas-y, allez-y, donnez de l'argent. Puis voilà, on va pas. L'idée, c'est que on va imaginer en même temps que le projet. En fait, on imagine du coup quel est le coût minimal de ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous faut pour minimum comme argent pour pouvoir le faire. Et donc Voilà, et donc ça, généralement, ça va être la rémunération des artistes ou l'achat éventuellement de matière, etc., pour la confection de costumes ou de décors ou de choses comme ça. Mais ça va être essentiellement la rémunération des artistes qui va coûter quelque chose, quoi. Et donc ça nous donne un budget minimal en dessous duquel on pourra pas faire ça. On pourra pas faire le projet. Alors éventuellement, on le revisite.
On l'adapte,
etc. On réduit un petit peu les coûts. C'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui travaillent dessus. Enfin, voilà. Mais on voit. Et à partir de ça, donc du coup, mais après, il y a des paliers. C'est-à-dire qu'au-dessus de ce budget minimal, il y a un certain nombre de paliers qui, c'est-à-dire que si on dépasse un autre montant, on peut rajouter plus de costumes, ou alors on peut faire des costumes plus élaborés parce qu'on peut rémunérer une costumière ou un scénographe. Plus ça va, plus en fait plus on monte dans le budget, plus on peut élaborer le spectacle. Et en gros, du coup, ce budget va déterminer le temps de travail qu'on accorde à la création. Et après, l'idée, c'est que c'est une création collective. C'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, chaque comédien, chaque artiste, etc., me fait des propositions à partir de la proposition de la graine. Et du coup, moi, je vais faire un canevas, un squelette, quelque chose comme ça, à partir duquel on va pouvoir travailler. Et à partir de ces propositions-là. Mais ce qui veut dire que chaque artiste est relativement autonome dans sa création. Mmh. C'est-à-dire que du coup, il va développer son truc. Et après, nous, on va, dans la création collective, dans le travail collectif, chercher à faire dialoguer chacune de ces solitudes, on va dire, chacune de ces créations solides, solitaires. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que donc d'une part, le budget détermine le temps qu'on y passe. Si on a le budget de travailler une journée, on travaille une journée. Ce qui fait que le spectacle est largement improvisé. Donc beaucoup,
Sachant qu'avant, chacun est libre, chaque artiste est libre de se documenter à sa façon, de mettre le temps qu'il veut pour la documentation, la recherche sur le sujet.
Oui, voilà, c'est ça. Un truc de confiance aussi de moi de ma part en tant que directeur artistique, c'est chacun fait un peu comme il souhaite, imagine un peu ce qu'il veut à partir de sa proposition de base, quoi. Mmh. Et où est-ce que j'en étais?
Donc on y passe le temps on que y le passe budget le temps, voilà. Nous donne.
Donc c'est improvisé sur le canevas généralement. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on aura le canevas, on aura la structure, on a la structure, etc. Donc par exemple, je vais du coup rentrer un peu plus dans le concret. On avait fait une première intervention avec des mamans d'une école primaire. Tout à l'heure on passera le truc. En septembre, on passera un petit extrait de ce qu'elles ont dit en sortant du spectacle. Et donc là, on avait, par exemple, travaillé sur 2 jours. Donc la première journée, on avait fait plein d'improvisations. À l'issue de cette journée-là, moi, j'avais fait une structure qu'on avait travaillé un peu l'après-midi, du jour suivant, et le soir, pour se la mettre un peu dans les pattes. Et le soir, on l'a joué, en fait, devant les gens. Donc voilà, ça exige en fait une certaine technique de comédien un peu particulière, quoi, qui pour pouvoir à la fois suivre un canevas et être très libre dedans, parce que un canevas est toujours fait pour être dépassé, pour être même malmené, quoi. C'est-à-dire si on peut s'en échapper, c'est plutôt pas mal.
Donc ton rôle, en fait, donc tu poses le canevas, le cadre, et nous à l'intérieur de ça, on s'empare de ça pour improviser dessus et pour selon nos...
Donc globalement ça fonctionne avec des impros, mais il peut y avoir aussi quand même des textes existants, écrits ou créés.
Ça peut faire partie des choses que les artistes proposent pour le coup et qui... Mmh. Oui, ça peut faire partie. Et du coup, soit c'est les textes à proprement parler, soit c'est ceux dont les textes traitent une situation bien précise dont on s'empare pour jouer.
Oui, c'est ça, une improvisation autour d'un texte, autour d'une thématique, etc. Voilà.
Et du coup, l'idée, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que à l'intérieur même du spectacle, je vais l'appeler quand même comme ça.
Oui, c'est un spectacle.
Il y a de la danse, il y a de la musique, et des fois les deux en même temps, avec du théâtre, du texte.
Ouais, ça dépend un peu de la demande initiale, quoi, un peu de ce qu'on, de ce qui nous paraît le plus approprié, quoi, c'est-à-dire pour les gens.
Peut-être on peut écouter ce petit extrait. On a la réaction du public.
Ouais.
Ça pourrait être intéressant puisqu'on l'a évoqué.
Ah bon ? Ah bon ?
Attends. Franchement, c'était bien. On a bien rigolé. Les idées des mamans du lab, je trouve que vous avez bien développé nos idées.
C'était vraiment ce qu'on a vécu nous en tant que parents. C'était vraiment ce que vous avez joué ce soir, c'est vraiment ce que nous on a pu vivre en tant que parents.
Voilà, au début, là, je voulais pas venir parce que je connaissais pas les pièces de théâtre. J'en ai jamais vu en réel, j'ai vu qu'à la télé. Et là, en réel, devant moi, c'est magnifique. Et de les voir, je sais pas, d'avoir participé à tout ça, c'est magnifique.
Et même le proverbe du jour y était. Seul, c'est pas bien même au paradis.
Vous avez parlé un petit peu de tous les thèmes qu'on avait parlé au LAP. Donc, ça résume tout. Hein. Moi, j'ai été ravie.
Oui, ça m'a étonnée, franchement. Je dis, même le proverbe y était, ça veut dire franchement, vous avez respecté toutes nos idées. C'est pas que vous avez inventé les trucs qu'on a dit, franchement, nous les mamans. Franchement, c'était bien, surtout avec l'humour, ça, on a bien rigolé.
On a beaucoup rigolé, c'est ça, c'est bien.
On rit en fait du début à la fin, quoi.
Vous nous avez fait passer un très très bon moment, et puis on est ravis, et moi le théâtre à partir de ce soir, j'irai à toutes les pièces de théâtre s'il le faut.
Voilà, vous avez pu écouter les réactions du public qui ont été prises après un spectacle.
Peut-être préciser qui sont ces gens. C'était des mamans d'une école primaire dans le quartier de Mermoz. Du coup, à qui on avait demandé de quoi elles avaient envie de parler en tant que maman dans ce quartier.
Oui, c'est ça. En fait, c'est du coup, comme la démarche est plus de partir d'elle, c'est pas nous qu'on avait demandé de quoi ils avaient envie de parler. Enfin, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais contacté le centre social la Hennec Mermoz pour leur dire, bah voilà, il y a cette possibilité-là qui existe. Est-ce que ça vous intéresse? Et là, ils se sont saisis. Ils ont dit, ah oui, ça nous intéresse. Je veux en parler. Il y a une animatrice qui en a parlé au lieu accueil parents dont elle s'occupe dans l'école Édouard Herriot à Mermoz, et une école primaire, quoi. Et donc là les mamans étaient très enthousiastes. Elles ont dit, ah oui, super, faites-le venir. Donc je suis allé les rencontrer, j'ai discuté avec elles, et à partir de là il y a des thématiques qui sont dégagées, et notamment les thématiques autour de la dépossession en quelque sorte de l'éducation de l'enfant. C'est-à-dire que les mamans se sentaient extrêmement dépossédées de l'éducation de l'enfant à partir du moment où ils rentraient dans l'école. Et donc on a parlé beaucoup de ça, c'est-à-dire quel est le rôle de l'école, justement, et elles se sentaient dépossédées aussi sur des questions comme le, comment que ça s'appelle, la théorie du genre, entre guillemets.
Oui, c'était en plein dedans.
Ouais, voilà. Ou des questions d'organisation plus générales sur la réforme des rythmes scolaires aussi qui arrivait à ce moment-là, c'est-à-dire que où elle disait mais on n'a absolument pas été consulté, enfin voilà, donc il y a des choses comme ça où elle déplorait profondément le manque de dialogue entre d'une part les enseignants, enfin l'éducation nationale en général, et les mamans. Et donc voilà, on a fait quelque chose là-dessus, et je suis très heureux des retours globalement qui ont été donnés après le spectacle, parce qu'on a passé un moment assez fort et intéressant, quoi. C'est-à-dire où on sentait qu'on avait effectivement touché quelque chose qui les intéressait, il y avait une double difficulté aussi, c'est-à-dire que là on entendait beaucoup les enfants derrière.
Oui.
C'est-à-dire que du coup il y avait les thématiques données par les mamans, mais on devait s'adresser aussi aux enfants derrière.
Ouais, donc c'est pas évident.
Non,
ce
voilà.
Sont des thématiques qui sont des thématiques un peu de grands.
Oui.
Le transmettre aux plus petits.
Ouais.
C'est un sacré challenge.
Non, mais voilà, mais du coup, dans le spectacle, il y a eu des...
Ça a créé de l'interactivité, du coup, aussi, avec les enfants qui étaient vachement réactifs et qui... Oui, on s'est servi de ça, en fait, de l'énergie qu'ils avaient eux aussi à ce moment-là et de qui ils étaient.
Oui, puis je crois qu'on a réussi quand même à faire une bonne balance entre s'adresser justement aux enfants et puis d'autres choses qui s'adressaient plus aux plus grands, aux parents. Et voilà, notamment, il y avait des passages au début de clown, voilà, qui ça réunit un peu tout le monde. Le clown, il y avait le... Et quand les clowns commençaient à être un peu trop spécifiques justement sur comment sexuellement ça se passe entre un homme et une femme, ou enfin comment on fait les bébés, quoi, c'était un peu la question au début, quoi, des clowns, comment on fait les bébés, machin. Ouais. Et voilà, qui commençait à être graveleux, etc. Ce qui était voilà. Derrière, il y a le conte de la cigogne qui est arrivé, quoi. Enfin, ouais. Mm-hmm. Du coup, qui venait rompre un peu ça, et qui venait donner une espèce de version édulcorée, complètement cucu de. De comment on fait les bébés.
En tout cas, ça a l'air d'être drôle parce que ça a été dit plusieurs fois dans les réactions du public.
Ouais, bah oui. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'apporte l'improvisation, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que. Toujours. Et l'interactivité avec le public, c'est-à-dire qu'il y a un côté tellement. Frais, j'en sais rien. Qui. Spontané, ouais, spontané. Qui. Généreux aussi, dans un sens, voilà, qui fait que les. Ouais, qui fait que ça va être. Enfin, que c'est drôle de toute manière, quoi. Quelle que soit la thématique qu'on va aborder derrière.
Et donc, tu parlais de partage, puisque généralement, à l'issue de cette représentation, de ce spectacle, il y a un débat, c'est ça, qui se fait ?
Oui, oui, oui.
De façon informelle, mais dans l'idée, oui.
Ouais, là, c'était informel, ouais, en l'occurrence. Je pense que ça, là aussi, ça va dépendre des... Parce que on est intervenu aussi à... Donc là, pour le septembre, c'était informel. C'est-à-dire qu'on a fait un petit pot et puis on discutait comme ça avec les gens. Ils venaient dire assez spontanément ce qu'ils en avaient pensé. Ils le disaient même pendant le spectacle. Mmh. Enfin, voilà, c'était assez... Mais on avait fait une intervention à Paris dans un foyer de jeunes travailleurs sur le vivre ensemble. Mmh. Voilà, sur comment se supporter les uns les autres quand on vit dans des espaces exigus. Et là, là pour le coup, la chose était beaucoup plus organisée. C'est-à-dire que là, on avait fait un canevas aussi. Enfin, c'était aussi assez largement improvisé puisqu'on avait eu le budget de travailler aussi qu'une journée. On avait fait un spectacle qui était composé de plusieurs improvisations qui faisaient globalement une sorte d'entonnoir, quoi. On partait de la situation générale, de toutes les incivilités qu'on pouvait trouver dans la vie de tous les jours, tous les comportements, les petits comportements que les uns et les autres peuvent, comment on peut s'énerver les uns les autres très facilement, en fait, dans les transports en commun, dans la rue, ou des choses comme ça. Et puis, on avait resserré petit à petit vers la situation des appartements partagés dans ce foyer de jeunes travailleurs. Pour ensuite déboucher sur un débat qui, cette fois, était organisé un peu selon un principe qui s'appelle la rivière du doute, un peu. Je sais pas si vous voyez ce genre de truc, c'est...
Pas du tout.
Je sais pas si vous, éditeur, vous voyez. Non. En gros, c'est... on pose une question qui est à peu près... qui est clivante, c'est-à-dire qui va donner deux camps. Et il y a ceux qui sont... il y a deux positions... donc il y a un maître du jeu qui est au milieu, et puis à sa gauche il y a une position, à sa droite il y a une autre position opposée, et au milieu il y a tous ceux qui savent pas. C'est ça la rivière du doute, quoi. Et le but du jeu, c'est que ceux de chaque côté tentent de convaincre ceux du milieu de les rejoindre. Mais entre temps, eux-mêmes peuvent changer d'avis, ne plus savoir bien, et repasser de l'autre côté. Enfin voilà. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est justement de faire jouer ces lignes, les faire vibrer, quoi. Enfin,
C'est un peu le principe du débat, en fait.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'on peut changer d'avis en cours de route.
Exactement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats où t'as l'impression que non, mais.
Ouais. Et du coup, là, donc à Paris, dans ce centre, comment s'est animé le débat? C'est vous, les comédiens, ou vous avez des personnes un peu calées?
Non, là,
venir animer.
Là, c'était en l'occurrence, c'était moi qui l'avais animé. Enfin, en fait, c'est-à-dire qu'on l'avait animé, c'est-à-dire que c'est moi qui posais les questions, qui gérais un peu, qui faisais un peu l'arbitre, qui gérais un peu les passages et tout ça. Mais à l'intérieur des groupes, les comédiens s'étaient disséminés pour jouer des personnages qui, enfin, pour continuer en fait les personnages qu'ils avaient dans la scène précédente et développer leur point de vue en fait.
La technicienne aurait juste une question. Du coup, ça se passe entre les scènes ou ça peut se passer entre les scènes pendant le spectacle ou uniquement à l'issue de la représentation?
Ça peut pendant, mais c'est vrai que moi j'ai une sorte de comment dire. J'ai fait beaucoup de avec la compagnie Dynamite de spectacles qui sont très interactifs où justement on mélange le temps, on mélange le discours, le commentaire, la réflexion sur le spectacle et le spectacle. Et c'est vrai que moi il y a un truc où pour le moment, enfin déjà ça demande un entraînement vraiment spécifique pour les acteurs. C'est pas simple à faire.
Mais moi je pensais aussi entre autres au Théâtre Forum là-dedans.
Ouais, bien sûr, ouais. Bah, c'est possible. Enfin, c'est-à-dire que le Théâtre Forum, c'est une forme possible qu'on peut adopter si la situation le demande. Mais c'est pas la seule. Et c'est-à-dire que ça, et encore une fois, ça demande un entraînement spécifique, quoi. C'est-à-dire que pour le moment, enfin voilà, il faut vraiment s'entraîner à ça, être perméable à la réaction, à la réaction des gens. Et puis tout en restant dans son personnage, voilà, ce qui est pas évident pour gérer aussi les publics. Donc pour le moment, moi, j'ai une tendance à me dire bon, oui, on fait le spectacle et puis on fait deux temps séparés, quoi. Et aussi parce que finalement le spectacle nous permet de partir beaucoup plus dans l'imaginaire, en fait, de développer une sensibilité, développer un sens esthétique beaucoup plus poussé. Si on sanctuarise ce moment-là.
Et donc de marquer encore plus le côté artistique que le côté lien social.
Bien sûr, ouais. Oui, parce que c'est important, ça. Parce que voilà, c'est vraiment le côté... c'est-à-dire que c'est quand même à travers la sensibilité, à travers on s'adresse pas aux gens comme justement dans un débat, par la raison et tout ça, c'est par la sensibilité, par l'esthétique. Qu'on s'adresse aux gens et qu'on les touche au final. Donc il faut pouvoir développer ça dans un cadre un peu sanctuarisé tout de même.
Je vous propose de faire une petite pause musicale pour reposer Hervé et Julie.
Ouais.
Voilà, on va écouter Camille. À tout de suite.
Allez, Camille, allez. Allez, Camille, Simon.
I didn't get it from the Lord, but I know I got it, I know I got it. I didn't get it from the Lord, I got it from my brother.
Allez, Camille, allez, allez, Camille, allez, allez, Camille,
êtes toujours sur le théâtre de la Gamelle et nous sommes encore en compagnie d'Hervé et Julie qui nous parlent du théâtre persistant. La prochaine question que j'ai envie de vous poser, ces spectacles, vous les jouez qu'une seule fois ou ça peut être joué plusieurs fois?
Alors,
qui prend la parole là.
T'avais envie de dire quelque chose?
Non, juste ça dépend encore une fois du budget et aussi de l'événement en question. Encore une fois, peut-être avec un exemple concret, mais pour l'événement à venir,
oui,
on va voir.
Ah oui, c'est vrai. Bah oui, parce que là, on a un projet, donc j'en parlais tout à l'heure un peu avec la MJC Mermoz, l'ANEC, et là, l'événement, il est sur 3 jours. Donc la question se posait de savoir est-ce qu'on faisait ce qui ne s'était pas posé avant, est-ce qu'on fait 3 fois? 4 fois, plusieurs fois dans la journée, une fois seulement, enfin voilà. Donc ça c'est aussi, bah forcément il y a une question de budget, c'est-à-dire que si on a le budget effectivement va jouer là-dessus, sur soit, enfin pas seulement le budget aussi, c'est-à-dire que comme il y a le financement participatif, les dons, etc., bah s'il y a beaucoup de gens qui donnent, on va essayer de jouer plusieurs fois quand même, pour que tout le monde puisse, au moins ceux-là qui puissent venir, quoi. Enfin, sachant que bon, le principe de ce financement, de ce type de financement-là aussi, c'est que c'est pas forcément ceux qui donnent qui viennent, et c'est pas ceux qui viennent qui donnent. Enfin, il y a pas une, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des gens qui ont envie de donner parce que le projet leur plaît, parce que le lieu leur plaît, etc.
Oui, comme quand on fait un don à n'importe quelle association,
ouais, voilà.
Ou œuvre caritative, quoi.
Ouais. Bon, du coup, pour ce qui est de jouer les choses plusieurs fois, déjà il y a ça comme réponse, et puis l'autre réponse, c'est que en fait, on accumule du répertoire à force. C'est-à-dire que par exemple, ce truc qu'on a fait sur l'éducation, eh bien, c'est un répertoire qu'on a en nous et que derrière, on peut réactiver forcément différemment, avec des variations et des choses comme ça, pour une autre situation, pour d'autres. Voilà, si quelqu'un nous écoute qui ressent la même chose que ces moments du LAP de du lieu accueil parent de l'école mère Édouard Herriot, et dit ah ouais, ce serait bien qu'on ait la même chose ou qu'on développe un peu le truc, ben voilà, on peut réactiver le spectacle, cette mémoire est en nous.
Et donc là, le projet à venir, c'est pour quand?
Le projet à venir, là, c'est pour 30 mai
29, 30, 31 mai
c'est ça, 29, 30, 31 mai, c'est dans le cadre de Prenez Racine, qui est un projet que la MJC, la ENEC Mermoz, a développé depuis 6 ans, à peu près, 6, un peu plus même, dans le quartier Mermoz, qui est la zone à construire Mermoz, qui est sans arrêt en mutation urbaine. Et ils ont décidé de proposer aux habitants de planter des arbres dans les zones...
Super, ça.
Ouais, c'est super chouette. Dans des zones, donc c'est un artiste qui s'appelle Thierry Boutonnier qui, avec la MJC, a mené ce projet-là. Et là, en fait, on arrive à la fin de l'accompagnement par Thierry de ce projet. Et donc c'est dans ce cadre-là, ils font une fête et nous, on sera un peu chargés dans un sens de raconter
porter la parole des acteurs du projet qui sont là depuis le début, et qui ont planté des arbres, qui sont des parrains marraines, mais aussi des habitants du quartier qui profitent quand même de ce jardin, qui en plus a changé de place, le jardin, parce qu'il a été il y a des bâtiments qui sont détruits, reconstruits.
Oui, ils sont en train de changer complètement.
Donc ils ont dû déplanter les arbres pour les planter ailleurs. C'est ça,
Je
dis pas de bêtises.
Non, ça.
Et donc voilà, ce jardin, il a bougé aussi. Et qu'est-ce que ça fait aux gens? Qu'est-ce que voilà? Quel est le lien qu'ils
ça
ont?
Ça change quoi, un quartier qui change? Enfin, ça fait quoi, un quartier qui change?
Exactement. Puis les sensations de déracinement aussi, peut-être, ce genre de choses.
Surtout qu'il était, ce quartier est existant depuis très très longtemps sous cette forme-là. C'est vraiment assez ancien.
Et tu poser la question après des textes aussi.
Oui.
Par exemple, pour plus concrètement sur ce projet-là, ben on a 2 textes essentiellement qu'on convoque, mais qu'on va pas dire en eux-mêmes. Enfin, il y a les textes qui sont parce qu'ils vont éditer un livre autour du projet, donc il y a des témoignages. Donc ça nous fait un premier texte. Il y a l'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, qui pour le coup est accessible gratuitement sur Internet, enfin parce qu'il est diffusé.
Public.
Voilà, il est super. C'est un très court texte, très nouvelle machin, mais super sur un homme qui plante des arbres au milieu de la Provence, des Alpes provençales, sans comment dire, qui était complètement désertique et puis qui à lui seul, à force de planter des arbres, en fait un environnement extrêmement accueillant et chaleureux pour la vie, quoi. Et donc ça nous fait une autre source. Et puis il y a Lys Martagon, c'est ça, de...
Oui, de Sylvain Levet.
Ouais.
Voilà, partir de la situation, enfin pas du texte en lui-même, mais de ce que raconte cette pièce.
Et là c'est un personnage en particulier, ouais. Quoi. Voilà, qui est... voilà, donc c'est différentes choses comme ça qui nous inspirent. Et puis
Là vous êtes combien sur ce projet-là?
Et là on va être 3, parce que voilà, question de disponibilité aussi. Hein.
On peut les citer. Donc il y a Hervé Charton.
Voilà, Julie Felgerol.
Et
Joris Morel.
Voilà, ça, on aura cité tout le monde. Donc, c'est rappelle la date.
Ce sera, alors, a priori, ce sera le 29... En fait, ça dépend du budget. Du coup, ce sera 29 ouais. mai. Peut-être le 30 aussi.
Peut-être le 31.
Peut-être le 31 aussi. Voilà.
D'accord. Le mieux, peut-être, pour s'enseigner, est-ce qu'il y a un site?
Alors oui,
théâtre persistant.
Site internet théâtre-persistant.fr. Sur lequel est une page Facebook Théâtre Persistant. Vous avez aussi non, c'est tout en fait.
Donc on peut aller sur ce site et sur la page Facebook pour se renseigner du coup sur les dates à venir qui seront à Mermoz à Lyon.
Voilà, sachant que pour le moment elles y sont pas, mais ça va venir.
Quand elles disent 29 mai, c'est pas tout de suite. Hein.
Ouais, ouais.
Et bien sûr aussi si ça vous intéresse de proposer un projet. Ou de financer un projet.
Mais voilà, si vous soyez vous-même une graine.
Voilà, devenez des graines. Voilà.
Peu importe la région, mais même le pays.
Pourquoi oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça, on a oublié de le préciser, effectivement. Mmh. Mais nous, on est basé à Lyon ou à Paris, en région parisienne. A priori, on peut se déplacer partout. Sachant, encore une fois, bon, le nerf de la question, ça va être aussi un peu l'argent, ça reste un peu ça, hein, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est-à-dire que du coup, voilà, si on doit aller en Gironde, bon, ça va nous coûter plus cher, mais c'est faisable.
C'est possible.
Ouais.
Bon, alors là, c'est peut-être pas les auditeurs de la Gironde qui vont nous entendre, puisque je ne pense pas qu'ils puissent nous écouter.
Par Internet.
Si
par
vous
Internet,
avez des amis, parlez, faut leur en parler. C'est faisable, donc, ouais. D'aller partout. Quoi.
On a un projet d'ailleurs à. Comment que ça s'appelle? Ah merde, j'ai plus. À une ville en banlieue de Montpellier qui s'est illustrée dernièrement par le nombre de jeunes qui sont partis faire le djihad en Syrie. Lunel, voilà. Voilà, il y a quelqu'un de Lunel qui nous a proposé, qui nous a demandé si on pouvait faire quelque chose. Donc voilà, on va voir un peu comment ça se développe. Pour le moment, c'est au début.
Une toute dernière question que je t'ai posée tout à l'heure, mais qui me vient à l'idée. Mettons, quelqu'un propose un sujet que tu as. Enfin, que vous n'avez pas forcément envie de défendre, est-ce que vous le faites quand même?
Ça ne s'est pas encore posé.
Non, c'est vrai.
Mais si.
Est-ce qu'on le fait quand même? Alors moi je suis quelqu'un de très curieux, et donc j'ai absolument aucun problème dans l'idée d'aller rencontrer quelqu'un qui voudrait, comme on disait... la question qu'on me pose souvent, c'est quelqu'un, un électeur du FN qui veut, ou un gros raciste qui veut absolument faire un spectacle sur les invasions barbares, sur comment est-ce que tout à coup, voilà, on est submergé d'immigrés. Bon, moi, je pense que ma démarche sera d'aller quand même le rencontrer et d'aller lui parler, de voir un peu pourquoi lui il me parle de ça, enfin, quelle est sa réalité concrète en fait. Et à partir de là, faire la même démarche. Alors après, dans un sens, moi, ça va m'inspirer plein de trucs. Je sais pas si les autres artistes de la compagnie, ça va les inspirer aussi, mais c'est possible.
Enfin, ça dépend. Après, Hervé nous propose les graines et où on a envie de s'en emparer ou pas, en fait.
Voilà,
et,
c'est ça.
Ça dépend à chaque fois de.
Donc si derrière j'ai aucun écho auprès de la compagnie, bon ben, du coup, on pourra rien faire. Mais si j'ai un écho et que nous on a une proposition à faire, l'autre chose c'est que nous on va faire une proposition à la graine, mais peut-être que cette proposition ne lui plaira pas.
Oui, peut-être que pas forcément dans le sens.
Voilà. Et donc si à un moment donné on se rend compte qu'on n'arrive pas à trouver un endroit, enfin on est dans le dialogue quoi. Donc si on n'arrive pas à trouver un endroit d'échange, c'est-à-dire que
de débat.
Voilà. parce que voilà, et ben on abandonne. Mais si on y arrive, c'est fantastique.
Voilà, c'était Hervé Charton et Julie Felgerol.
Merci beaucoup, Amandine. Arriver,
qui sont venus nous parler du théâtre persistant. Je vous rappelle que vous pouvez aller. Mais deux minutes, papillon.
Oui, pardon.
Je vous rappelle que vous pouvez aller sur Internet, sur le site du théâtre persistant et sur le Facebook pour choper des informations, proposer des projets, les contacter.
Planter des graines.
Planter des graines qui deviendront des arbres. Voilà. Voilà, puisque vous êtes dans la thématique en ce moment avec Mermoz.
En plus.
C'était Pauline Thirault à la technique.
Merci.
Merci Pauline.
Merci. Merci à vous.
La semaine prochaine, le Théâtre de la Gamelle sera absent de Radio Canu puisque, comme vous le savez, c'est le 1er mai. Et le 1er mai, Radio Canu participe à la marche et à la manifestation du 1er mai. Je vous invite donc tous à y aller, bien sûr. Et on se retrouvera donc le 8 mai avec une émission sur la thématique théâtre et cuisine. Voilà, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot de la fin ?
Après théâtre et jardinage. c'est ça. Non, un petit mot de la fin. Non, encore une fois, planter des graines, jardinons tous ensemble, cultivons notre jardin, comme dirait l'ancien Voltaire.
Ben voilà, on se quittera sur ces mots. Passez un bon week-end, une bonne semaine, bien sûr, et on se retrouve le 8 mai et on se quitte en musique. Au revoir à tous et à toutes.
Salut.
Salut.
Yeah, Phil! Do what you want!
Sur son char.
Amateur propagande.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.